Chapitre 11. Le royaume se fissure. Ces chemins du Berry ont toujours été réputés pour mauvais. Mais je vois que la guerre ne les a point améliorés. Hola, Brunet, la rue! Faites ralentir le train par la grâce de Dieu. Je sais bien que chacun est en hâte d'arriver à Bourges, mais ce n'est point raison pour me moudre comme poivre dans cette caisse. Arrêtez! Arrêtez tout à fait! Et faites arrêter en tête. Bon. Non, ce n'est point la faute de mes chevaux. C'est la faute de vous tous, qui poussez vos montures comme si vous aviez de l'étoupe allumée sur vos selles. À présent qu'on reparte et qu'on observe, je vous prie, de me mener à une allure de cardinal. Sinon, je vous obligerai à combler les ornières devant moi. C'est qu'ils me romperaient les os, ces méchants diables, pour se coucher une heure plus tôt. Enfin, la pluie a cessé. Tenez, Archambault, encore un mot brûlé. Les Anglais sont venus s'ébattre jusque dans les faubourgs de Bourges qu'ils ont incendiés, et même ils ont envoyé un parti qui s'est montré sous les murs de Nevers. Voyez-vous, je n'en veux point aux archers gallois, aux coutiliers irlandais et autres ribaudailles que le prince de Galles emploie à cette besogne. Ce sont gens de misère à qui l'on fait miroiter fortune. Ils sont pauvres, ignorants, et on les mène à la dure. La guerre pour eux, c'est piller, se goberger et détruire. Ils voient les gens des villages s'enfuir à leur approche, des enfants plein les bras, en hurlant « les Anglais, sauve Dieu !» La chose est plaisante pour des vilains que d'apeurer d'autres vilains. Ils se sentent bien forts. Ils mangent de la volaille et du porc gras tous les jours. Ils percent toutes les barriques pour étancher leur soif. Et ceux qui n'ont pu boire ou manger, ils le saccagent avant de partir. Rafler les chevaux pour leur remonte, ils égorgent tout ce qui meugle ou bêle le long des chemins et dans les étables. Et puis, gueules saoules et mains noires, ils jettent en riant des torches sur les meules, les granges et tout ce qui peut brûler. Ah, c'est bonne joie, n'est-ce pas, pour cette armée de bidots et goujats d'obéir à de tels ordres. Ils sont comme des enfants malfaisants qu'on invite à méfaire. Et même je n'en veux point aux chevaliers anglais. Après tout, ils sont hors de chez eux. On les a requis pour la guerre. Et le prince noir leur donne l'exemple du pillage, se faisant apporter les plus beaux objets d'or, d'ivoire et d'argent, les plus belles étoffes, pour en emplir ses chariots ou bien gratifier ses capitaines. Dépouiller des innocents pour combler ses amis. Voilà la grandeur de cet homme-là. Mais ceux à qui je souhaite qu'ils périssent de mal mort et rôtissent en géhenne éternelle, oui, oui, tout bon chrétien que je suis, ce sont ces chevaliers gascons, aquitains, poitevins, et même certains de nos petits sires du Périgord, qui préfèrent suivre le duc anglais que leur roi français, et qui, par goût de la rapine, ou par méchant orgueil, ou par jalousie de voisinage, ou parce qu'ils ont en travers du cœur un mauvais procès, s'emploient à ravager leur propre pays. Non, cela, je prie bien fort Dieu de ne les point pardonner. Ils n'ont à leur décharge que la sottise du roi Jean, qui ne leur a guère prouvé qu'il était homme à les défendre, levant toujours ses bannières trop tard et les envoyant roidement du côté où les ennemis ne sont plus. Ah, c'est un bien grand scandale que Dieu a permis en laissant naître un prince si décevant. Pourquoi donc avait-il consenti au traité de Valognes, dont je vous entretenais hier, et échangé avec son gendre de Navarre un nouveau gros baiser de Judas? Parce qu'il redoutait l'armée du prince Édouard d'Angleterre qui faisait voile vers Bordeaux. Alors, la droite raison eût voulu, s'étant libéré les mains du côté de la Normandie, qu'il courût sus à l'Aquitaine. Il n'y a pas besoin d'être cardinal pour y penser. Mais que non! Notre piteux roi musarde, donnant de grands ordres pour de petites choses. Il laisse le prince de Galles débarquer sur la Gironde et fait rentrer de triomphe à Bordeaux. Il sait, par rapport d'espies et de voyageurs, que le prince rassemble ses troupes et les grossit de tous ces gascons et poitevins dont je vous disais tout à l'heure en quelle estime je les ai. Tout lui indique donc qu'une rude expédition s'apprête. Un autre eût fondu comme l'aigle pour défendre son royaume et ses sujets. Mais ce parangon de chevalerie, lui, ne bouge pas. Il avait, il faut en convenir, des ennuis de finances en cette fin de septembre de l'an passé, un peu plus qu'à son ordinaire. Et justement, comme le prince Édouard équipait ses troupes, le roi Jean, pour sa part, annonçait qu'il avait à sursoir de 6 mois au paiement de ses dettes et aux gages de ses officiers. Souvent, c'est quand un roi est à court de monnaie qu'il lance ses gens à la guerre. « Soyez vainqueurs et vous serez riches. Faites-vous du butin, gagnez des rançons. » Le roi Jean préféra se laisser appauvrir davantage en permettant à l'Anglais de ruiner à loisir le midi du royaume. Ah, la chevauchée fut bonne et facile pour le prince d'Angleterre. Il ne lui fallut qu'un mois pour conduire son armée des rives de la Garonne jusqu'à Narbonne et à sa mère, se plaisant à faire trembler Toulouse, brûlant Carcassonne, ravageant Béziers. Il laissait derrière lui un long sillon de terreur et s'en acquit à peu de frais une grande renommée. Son art de guerre est simple, que notre Périgord a éprouvé cette année. Il attaque ce qui n'est point défendu. Il envoie une avant-garde éclairer la route assez loin et reconnaître les villages ou châteaux qui seraient solidement tenus. Ceux-là, il les contourne. Sur les autres, il lance un gros corps de chevaliers et d'hommes d'armes qui fondent sur les bourgs dans un fracas de fin du monde, dispersent les habitants, écrasent contre les murs ceux qui n'ont pas fui assez vite, embrochent ou assomment tout ce qui s'offre à leurs lances et à leurs masses. Puis se partagent en épis vers les hameaux, manoirs ou monastères avoisinants. Viennent derrière les archers, qui raflent la subsistance nécessaire à la troupe et vident les maisons avant d'y bouter le feu. Puis les coutilliers et les goujats qui entassent le butin dans les chariots et achèvent la besogne d'incendie. Tout ce monde, buvant jusqu'à plus soif, avance de 3 à 5 lieues par jour. Mais la peur que répand cette armée la précède de loin. Le but du prince noir, je vous l'ai dit, affaiblir le roi de France. On doit accorder que l'objet fut atteint. Les grands bénéficiaires, ce sont les Bordelais et les gens du vignoble, et l'on conçoit qu'ils se soient coiffés de leur duc anglais. Ces dernières années, ils n'ont connu qu'un chapelet de malheurs. La dévastation de la guerre, les vignes malmenées par les combats, les routes du commerce fort incertaines, la mévente, sur quoi était venue s'ajouter la grande peste qui avait obligé de raser tout un quartier de Bordeaux pour assainir la ville. Et voici que les calamités de la guerre à présent s'abattent sur d'autres. Eh bien, il s'engausse. À chacun, n'est-ce pas, son tour de peine. Aussitôt débarqué, le prince de Galles a fait battre monnaie et circuler de belles pièces d'or, frappées aux lys et aux lions, aux léopards, comme veulent dire les Anglais, bien plus épaisses et lourdes que celles de France marquées à l'agneau. Le lion a mangé l'agneau, disent les gens en manière de joyeuseté. Les vignes donnent bien, la province est gardée, le mouvement du port est riche et nombreux, et en quelques mois, il en est parti 20 000 tonneaux de vin, presque tout vers l'Angleterre. Si bien que depuis l'hiver passé, les bourgeois de Bordeaux montrent des faces réjouies et des ventres aussi ronds que leurs futailles. Leurs femmes se pressent chez les drapiers, les orfèvres et les joailliers. La ville vit dans les fêtes, et chaque retour du prince, en cette armure noire qu'il affectionne et qui lui vaut son surnom, est salué par des réjouissances. Toutes les bourgeoises en ont la tête tournée. Les soldats, riches de leur pillage, dépensent sans compter. Les capitaines de Galles et de Cornouailles tiennent le haut du pavé. Et il s'est fait beaucoup de cocus à Bordeaux ces temps-ci, car la fortune n'encourage pas la vertu. On dirait de la France depuis un an qu'elle a 2 capitales, ce qui est la pire chose qui puisse advenir à un royaume. À Bordeaux, l'opulence et la puissance. À Paris, la pénurie et la faiblesse. Que voulez-vous ? Les monnaies parisiennes ont été altérées 80 fois depuis le début du règne. Oui, Archambault, 80 fois. La livre tournois n'a plus que le 1/10 de la valeur qu'elle avait à l'avènement du roi. Comment veut-on conduire un État avec de pareilles finances ? Quand on laisse s'enfler sans mesure le prix de toute denrée, et quand on amincit en même temps la monnaie, il faut bien s'attendre à de grands troubles et de grands revers. Les revers, la France les connaît, et les troubles, elle y entre. Qu'a donc fait notre roi si futé l'autre hiver pour conjurer des périls que chacun apercevait ? Ne pouvant plus guère obtenir d'aide de la Languedoc, après la chevauchée anglaise, il a convoqué les états généraux de la Languedoil. La réunion n'a point tourné à sa satisfaction. Pour accepter l'ordonnance d'une levée exceptionnelle de 8 deniers à la livre sur toute vente, ce qui est lourde imposition pour tous métiers et négoces, ainsi qu'une particulière gabelle mise sur le sel, les députés se firent tirer l'oreille et émirent de grosses exigences. Ils voulaient que la recette fût perçue par receveurs spéciaux choisis par eux, que l'argent de ses impôts n'aille ni au roi, ni aux officiers de son service, que, s'il y avait une autre guerre, nulle levée d'aide nouvelle ne se fît qu'il n'en ait délibéré. Que sais-je encore ? Les gens du tiers étaient fort véhéments. Ils avançaient l'exemple des communes de Flandre, où les bourgeois se gouvernent eux-mêmes, ou bien du Parlement d'Angleterre, qui abarre sur le roi beaucoup plus que les États en France. « Faisons comme les Anglais, cela leur réussit !» C'est un travers des Français, lorsqu'ils sont dans la difficulté politique, de chercher des modèles étrangers plutôt que d'appliquer avec scrupule et exactitude les lois qui leur sont propres. Ne nous étonnons point que la nouvelle réunion des États, que le Dauphin a dû avancer, tourne de la mauvaise façon que je vous contais l'autre jour. Le prévôt Marcel s'est exercé la gorge déjà l'année dernière. Ce n'était pas à vous ? Ah non, c'était à Don Calvo, en effet. Je ne l'ai pas fait remonter avec moi depuis, il est malade en litière. Et le Navarrais, me direz-vous, pendant ce temps ? Le Navarrais s'attachait à persuader le roi Édouard qu'il ne l'avait pas joué en acceptant de traiter avec Jean II à Valognes, qu'il était toujours à son endroit dans les mêmes sentiments, qu'il n'avait faim de s'accorder au roi de France que pour mieux servir leurs desseins communs, et que le temps ne tarderait pas qu'il le lui ferait voir. Autrement dit, qu'il attendait la première occasion de trahir. Cependant, il travaillait à affermir son amitié avec le dauphin par tout moyen de cajolerie, de flatteries et de plaisir, et même par le moyen des femmes, car je sais des demoiselles, dont la gracieuse que j'ai déjà dû vous nommer, et aussi une biette cassinelle, qui sont fort dévouées au roi de Navarre, et dont on dit qu'elles ont mis de l'entrain dans les petites fêtes des deux beaux-frères. À la faveur de quoi, s'étant fait son maître en péché, le Navarrais commença de sourdement encourager le dauphin contre son père. Il lui représentait que le roi Jean ne l'aimait guère, lui, son aîné-fils, et c'était chose vraie. Qu'il était piètre roi, et c'était vrai encore. Qu'après tout, ce serait œuvre pie que d'aider Dieu, sans aller jusqu'à abréger ses jours, au moins à le déchasser du trône. « Vous feriez, mon frère, un meilleur roi que lui. N'attendez point qu'il vous laisse un royaume tout effondré. » Un jeune homme est aisément pris à cette chanson-là. « À nous deux, je vous l'assure, nous pouvons accomplir cela, mais il faut nous gagner des appuis en Europe. » Et d'imaginer qu'ils aillent trouver l'empereur Charles IV, l'oncle du dauphin, pour requérir son soutien et lui demander des troupes. Rien de moins. Qui eut cette belle idée d'appeler l'étranger pour régler les affaires du royaume et d'offrir à l'empereur, qui déjà donne tant de fil à retordre à la papauté, d'arbitrer le sort de la France ? Peut-être l'évêque Lecoq, ce mauvais prélat que Navarre avait ramené dans l'entourage du dauphin. Toujours est-il que l'affaire était bien montée et poussée fort avant. Quoi ? Pourquoi s'arrête-t-on quand je ne l'ai pas commandé ? Ah, des fardiers encombrent la route. C'est que nous entrons dans les faubourgs. Faites dégager. Je n'aime point ces arrêts imprévus, on ne sait jamais. Quand il s'en produit, que l'escorte se resserre autour de ma litière. Il y a des routiers pleins d'audace que le sacrilège n'effraie point, et pour qui un cardinal serait de bonne prise. Donc, le voyage des deux Charles, celui de France et celui de Navarre, était résolu dans le secret. Et l'on sait même à présent qui devait être de l'équipée qui les conduirait à Metz. Le comte de Namur, le comte Jean d'Harcourt, le très gros, à qui il allait arriver malheur, comme je vous dirais, et aussi un Boulogne, Godefroy et Gaucher de l'Or, et puis bien sûr les sires de Graville, de Clair et d'Aunay, Maubuet de Mennemare, Colin Doublel et l'inévitable Friquet de Fricant, c'est-à-dire les conjurés de la truie qui file. Et aussi, la chose est d'intérêt car je pense bien que c'était eux qui baillaient finance à l'expédition, Jean et Guillaume Marcel, deux neveux du prévôt, qui étaient dans l'amitié du roi de Navarre et qu'il conviait à ses réjouissances. Comploter avec un roi, cela éblouit toujours les jeunes bourgeois riches. Le départ était prévu pour la Saint-Ambroise. 30 Navarrais devaient attendre le dauphin à la barrière de Saint-Cloud, au soir tombant, pour le conduire à Mantes, chez son cousin. Et de là, ce beau monde gagnerait l'Empire. Et puis, tout ne peut être contraire toujours à un homme qui a le mauvais sort, et même le plus sot des rois ne parvient pas à tout manquer. La veille, jour de la Saint-Nicolas, notre Jean II a vent de l'affaire. Il mande son fils, le cuisine assez bien, et le dauphin, lui faisant l'aveu du projet, prend sentiment du même coup qu'il s'est fourvoyé, non seulement pour lui-même, mais pour l'intérêt du royaume. Là, le roi Jean, je dois le dire, se conduisit plus habilement qu'à son accoutumée. Il ne retient contre son fils que d'avoir voulu quitter le royaume sans son autorisation, lui montre gré de sa franchise en lui accordant tout aussitôt pardon et rémission de cette faute, et, découvrant que son héritier avait de la décision personnelle, déclare vouloir l'associer plus étroitement aux charges du trône en le faisant duc de Normandie. C'était bien sûr l'envoyer dans un piège que de lui remettre ce duché tout peuplé de partisans des Évreux Navarres, mais c'était bien joué. Monseigneur le Dauphin n'avait plus qu'à prévenir le mauvais qu'il rendait la liberté à tous ceux qui étaient dans la confidence de leur dessein. Vous pensez bien que cette affaire n'avait pas fait recroître l'amour du père pour le fils, même si le dépit était dissimulé sous ce fier cadeau. Mais surtout, la haine du roi pour son gendre commençait à être bien recuite et dure comme pâte remise 6 fois au feu. Tuer son connétable, fomenter des troubles, débarquer des troupes, prendre langue avec l'ennemi anglais, et il ne savait pas encore à quel point, enfin détourner son fils, c'en était trop. Le roi Jean attendait l'heure propice à faire payer tout ce débit aux Navarrais. Pour nous qui observions ces choses d'Avignon, l'inquiétude grandissait et nous voyions approcher des circonstances extrêmes. Des provinces détachées, d'autres ravagées, une monnaie fuyante, un trésor vide, une dette croissante, des députés grondeurs et véhéments, de grands vassaux entêtés dans leur faction, un roi qui n'est plus servi que par ses conseillers immédiats, et enfin, brochant sur le tout, un héritier du trône prêt à requérir l'aide étrangère contre sa propre dynastie. J'ai dit au pape, « Très Saint-Père, la France se fissure. » Je n'avais point tort. Je me suis seulement trompé sur le temps. Je donnais 2 ans pour que se produisît l'écroulement, il n'en a même pas fallu un. Et nous n'avons pas encore vu le pire. Que voulez-vous? Quand il n'y a point de fermeté à la tête, comment pourrait-on attendre qu'il y en ait dans les membres? À présent, il nous faut tenter de recoller les morceaux, vaille que vaille, et pour cela, nous voilà en nécessité de recourir aux bons offices de l'Allemagne, et de donner du coup plus d'autorité à cet empereur dont nous aurions plutôt souhaité museler l'arrogance. Avouez qu'il y a de quoi pester. Allez maintenant, Archambault, reprendre votre monture et vous placer en tête du cortège. Je veux que pour entrer dans Bourges, même si l'heure est tardive, on puisse voir flotter votre pennon du Périgord à côté de celui du Saint-Siège. Et faites écarter les rideaux de ma litière pour les bénédictions.